Bienvenue au musée Picasso.
Regardez attentivement ce tableau. Qu'en pensez-vous?
Pourquoi tout est déformé?
C'est trop moche.
Un cheval avec une
corne
dans la bouche.
Pourquoi les gens sont tout cassés?
Pourquoi il y a un monstre
qui
mange un monsieur?
Pourquoi
il y a des mains?
Pourquoi les têtes elles crient?
Ça fait peur.
Ça s'est vraiment passé?
Il y a 100 ans, la trêve de Noël suspendait le temps d'une soirée, les combats entre Français et Allemands. Ce jour-là, ils auraient tous dû être avec leur famille, leurs amis, mais non. Ils sont là, à la guerre. Un soldat est en train de somnoler dans sa triste cagnotte, glacé jusqu'au sang. Depuis son arrivée sur le front, il n'avait quasiment rien mangé et rien bu. Dormir était pour lui et ses camarades le seul moyen d'oublier partiellement la guerre. Tout à coup, un camarade le secoue.
Lève-toi, dépêche-toi.
J'espère que t'en as une bonne, même une très bonne raison pour me réveiller, pour une fois que je ne faisais pas de cauchemar.
Arrête de me crier dessus et viens plutôt voir ça.
Un ciel rouge planait sur la No Man's Land. Des corbeaux volaient, corbeaux noirs comme le jet, en poussant des cris, comme s'ils voulaient annoncer la mort. Mais, au-dessous de ce ciel rouge, deux sergents, allemands et français, se serraient la main, fièrement.
Ah, on ne vivra pas ça tous les jours. Certainement pas Frédéric Bataille. Membre de la Société des gens de lettres, il était surtout connu comme poète. C'est lui qui a écrit un poème pour l'inauguration de la statue du petit soldat, édifiée en 1880 au lycée Michelet de Vendres, où il était professeur. Voici un de ses poèmes, paru dans le Petit Comtois le 25 décembre 1914.
Les cloches de Noël sanglotent cette année.
Ô Jésus, qu'ils sont loin les joyeux carillons.
Qui depuis 2000 ans à la terre damnée
promettait hier encore la paix aux nations.
Comment sommes-nous sortis indemnes de cet enfer? J'en suis encore à me le demander. Avant-hier, terrible journée. Jusqu'à 4h du soir, nous étions à peu près tranquilles. Lorsque les Boches commencèrent à bombarder la tranchée avec d'énormes marmites de 280 et de 310. Aussitôt, on nous annonçait deux morts dans la section voisine. Notre tour devait venir bientôt. Coup sur coup, 8 obus sur le bout de la tranchée, occupaient ma section, terrifiant spectacle. 2 tombent à 4 mètres de moi, de l'autre côté d'un saillant, et j'entends des cris déchirants, puis un silence de mort. 4 obus tombent à notre hauteur, de chaque côté de notre tranchée, avec un bruit de tonnerre. Nous sommes couverts de terre et de pierres, et avec angoisse, nous attendons l'obus prochain, qui peut, qui doit tomber en pleine tranchée. Les hommes sont fous de peur et tournent tous les yeux vers moi. Je leur ordonne le sang-froid et leur recommande de se déplacer le long de la tranchée en courant quatre pattes après chaque nouvelle explosion. Les obus nous suivent et nous lâchent. Nous sommes sauvés pour cette fois.
Je me rends alors à la partie de la tranchée où sont tombés les deux premiers obus. Spectacle inoubliable. Tout est dévasté. Les gourbis effondrés. d'énormes éboulis de terre. Fusil brisé. Sac éventré. Un désordre inexprimable. À l'entrée, enfoui sous terre, est le plus brave soldat de la compagnie. Un de ceux qui faisait toutes les patrouilles avec moi, mort sur le coup. Près de lui, un autre, blessé à la tête, achève de se panser. Enfin, un troisième se soulève à demi les jambes brisées, la face ensanglantée, et demande un fusil pour s'achever. Je suis auprès de lui pour le réconforter et lui donner de l'eau et du cognac. Le pauvre garçon me dit
« Je suis foutu. Prends tous mes papiers et écris à ma sœur à Lyon. »
Et bientôt, les infirmiers arrivent avec un aide-major pour lui faire le premier pansement. Jusqu'au soir, il reste là, car il ne faut pas songer à l'enlever en plein jour. Tous nos mouvements étaient surveillés par les observateurs Bosch en ballon. À l'heure actuelle, je crois qu'il s'en tirera, mais qu'il perdra une jambe qu'on devra lui couper au-dessus du genou. À 10h, nous passons dans une nouvelle tranchée à 100 mètres en arrière.
Envoyé aussitôt pour conduire une corvée, je m'acquitte de ma mission et à mon tour, j'apprends trois nouveaux morts à la place que nous venions d'occuper. L'un d'eux décapité et le bras gauche enlevé par une torpille aérienne. Les autres, tous par un obus. Tout le reste de la section descend alors dans une cave profonde de 15 mètres. Véritable caverne. Au-dessus des torpilles viennent éclater des marmites impressionnantes. C'est là que nous avons passé la journée d'hier à dormir comme des brutes. Accablés que nous étions par 3 jours sans sommeil et une autre corvée terrible m'était réservée. Fouiller et enterrer les morts. Je me suis acquitté hier soir de cette lugubre mission. Quelle histoire et quel écœurement.
Voilà le récit des terribles heures que je viens de vivre. Nous avions le secteur le plus dur à garder. Notre tranchée était en flèche et prise en enfilade sur la gauche par le feu des grosses batteries allemandes. Y retournerons-nous ? Inutile de vous dire que personne n'y tient. Pas plus les officiers que les soldats. Qu'il est dur de rester sous ce feu infernal, dans une tranchée, dont on ne peut sortir comme un rat dans une ratière. Enfin,